France Inter, franceinter.com.
Bonjour, aujourd'hui avec Michel Vinoc, Victor Hugo en politique. Je rêve l'équité, la vérité profonde, l'espoir qui luit, la foi qui fonde, et le peuple éclairé plutôt que châtié. Je rêve la douceur, la bonté, la pitié et le vaste pardon. De là ma solitude. Victor Hugo. Ans d'histoire. Le 1er juin 1885, des centaines de milliers de Parisiens convergeaient vers l'Arc de Triomphe, recouverts ce jour-là d'un immense crêpe noir. Venus depuis l'aube de tous les quartiers de Paris, ils défilaient devant le catafalque placé sous la Grande Arche et au sommet duquel se trouvait le corps de Victor Hugo. « Ce n'est pas à des funérailles que nous assistons, c'est à un sacre », murmura quelqu'un, au moment où à 11h du matin, 21 coups de canon tirés depuis le Mont-Valérien annonçaient le début de la cérémonie. Jamais encore dans l'histoire, un écrivain français n'avait eu droit à de telles funérailles. Mais le gouvernement avait voulu rendre un hommage solennel à celui qui, toute sa vie et dans toute son œuvre, avait toujours pris la défense des pauvres et des opprimés et incarné la liberté, la laïcité et la République. Une République qui, ce jour-là, avait oublié l'époque où, 60 ans plus tôt, le jeune Victor Hugo était encore un monarchiste, reçu par le roi de France Charles X, qui l'avait décoré de la Légion d'honneur.
On m'a lu quelques passages de votre drame de Marion Delorme. Pourquoi choisir comme personnage principal une femme de mauvaise vie? Dites-moi, monsieur Hugo, vous avez été élevé dans les bons principes.
Oui, sire. Mon père était général. Ma famille a toujours servi la France.
Vous-même, à ce qu'on me dit, vous avez toujours manifesté des sentiments fidèles à votre roi.
Oui, sire.
Vous avez même composé une ode en l'honneur de mon sacre. Je l'ai lu, j'y fus sensible. Mais vous conviendrez tout de même, monsieur Hugo, que la salle de la Comédie-Française doit donner l'exemple du bon goût, du respect de l'ordre, de la monarchie, de la religion. Bouleversez les vers tant que vous voudrez. Et ne touchez pas à la France.
Michel Vinoc, bonjour. Dans un livre que vous venez d'écrire, Victor Hugo dans l'arène politique, vous rappelez à quel point cet écrivain qui a connu quand même 7 régimes politiques différents en France, qui a traversé 4 révolutions, était un écrivain engagé dans des combats qui à l'époque étaient révolutionnaires, qu'il s'agisse de la lutte contre la peine de mort, qu'il s'agisse de la défense de la laïcité, et même d'ailleurs avant tout le monde pour l'idée d'une fédération européenne. Ce que l'on sait moins, c'est qu'avant de devenir l'incarnation de la défense de la République, le jeune Victor Hugo, on vient de l'entendre, était un monarchiste, et cela pendant le règne d'un des rois les plus réactionnaires de l'histoire de France, qui était Charles X.
Exactement. Victor Hugo a d'abord été, effectivement, du parti ultra, comme on l'appelait, c'est-à-dire il était légitimiste, et en ce sens, il défendait le régime du trône et de l'autel, l'alliance du trône et de l'autel, c'est-à-dire le régime de la Restauration. Alors c'est assez étonnant parce que non seulement il meurt en grand républicain, mais à la même époque, il est quand même le fils d'un général qui était un général de la Révolution et un général de l'Empire. Ce qui lui valait du reste à ce père d'être consigné à Blois en résidence surveillée, n'est-ce pas ? Obligatoire. Alors, pourquoi ?
Ça, de c'est réaction une... contre le père ?
C'est exactement cela, c'est-à-dire qu'il a pris vraiment le parti de la mère contre le père. Mais il faut ajouter autre chose, c'est que il fait partie d'une génération qu'on appelle la génération romantique. Le grand homme, c'est Chateaubriand.
Je serai Chateaubriand ou rien,
voilà.
M'a-t-il dit. Oui.
Et Chateaubriand, évidemment, c'est justement le grand écrivain du parti légitimiste, du parti ultra. Et le jeune Hugo, qui lui fait des vers, pense qu'il sera le Chateaubriand en vers. Donc cela l'a amené à écrire ses premières œuvres, les Odes, en, il avait 20 ans, en 1822, qui sont truffées de poèmes favorables au régime monarchiste, à Charles X, à la Vendée, à la période contre-révolutionnaire, etc.
Alors, cela dit, il n'hésite quand même pas à prendre les conservateurs qui sont ses proches à rebrousse-poil en condamnant, par exemple, très tôt, c'est un de ses premiers engagements politiques, la peine de mort, et cela dans un de ses tout premiers récits qui était « Les derniers jours d'un condamné », Michel Vinocq.
Oui, alors il faut bien voir que Victor Hugo, c'est une évolution. Il est passé donc de ses positions ultra légitimistes et il va devenir, il finira comme républicain. Mais entre-temps, il y a eu plusieurs étapes. Et même sous la Restauration, on le voit qui va prendre ses distances vis-à-vis de Charles X, et notamment parce que Chateaubriand, son grand homme, lui-même, qui a été chassé du ministère par Villèle et Charles X, est entré dans l'opposition. Donc, il est entré dans l'opposition tout en restant monarchiste. Et en 1829, il écrit son premier grand livre, qu'on pourrait dire engagé, si vous voulez, quoique les Odes étaient déjà engagés, mais de l'autre côté, c'est « Les derniers jours d'un condamné à mort », qui ne plaisent pas du tout, parce que il s'agit d'un livre un peu abstrait, qui raconte les derniers jours d'un homme dont on ne connaît pas le nom, on ne sait pas pourquoi il est condamné. Et néanmoins, c'est un livre très puissant parce que justement, Victor Hugo a voulu, à travers cet anonyme, cette figure anonyme, dénoncer l'intolérable, c'est-à-dire la peine de mort.
Et cela quelques mois avant une autre date très importante pour Victor Hugo, 1830, lorsqu'avec quelques autres écrivains romantiques, il s'engage dans une des plus célèbres batailles de l'histoire de la littérature, la bataille d'Hernani.
Comment vous appelez-vous ?
Il s'appelle Gautier, Théophile Gautier.
Voici ma femme, Adèle Hugo. Et vous connaissez bien sûr Alexandre Dumas. À vrai dire, vous tombez assez bien. Ma pièce, Marion Delorme, est interdite. Définitivement.
Tu vas donc écrire une autre pièce?
Oui, et je la situerai sans doute en Espagne. Pour qu'on ne puisse pas m'accuser de prendre pour cible la cour de France. Et dans cette pièce, je me jetterai tout entier, sans concession. En allant jusqu'au paroxysme de la passion, en pulvérisant l'Alexandrin.
La guerre au crâne d'œuf est déclarée.
La guerre, oui, sans aucun doute. J'aurai besoin de vous tous et de beaucoup d'autres. Voilà pourquoi, monsieur Gautier, vous tombez bien.
Hernani, tout à coup, m'a plongé dans la lutte, dans l'histoire du théâtre. Ce n'était peut-être qu'un incident, mais il m'a ouvert les yeux et le cœur. Ce fut le début de mon changement. Je voyais clairement, pour la première fois, que toutes les libertés n'en font qu'une.
La bataille d'Hernani en 1830, Michel Vinocq, c'est vraiment un tournant dans l'évolution politique de Victor Hugo.
Oui, en tout cas, c'est un repère de son évolution. Alors, 1830, c'est formidable parce que c'est l'année de la Révolution de juillet. Hernani est joué au début de l'année, donc avant la Révolution. Mais c'est comme si Hernani annonçait les jours de juillet, les trois glorieuses qui vont mettre fin au régime de la Restauration. Il faut dire que ce qui est, à mon avis, très intéressant, c'est l'évolution, donc dans les dernières années de la Restauration, de Victor Hugo, vers la proclamation de la liberté totale en art, et que la liberté en art, contre toutes les censures, contre toutes les règles, contre les règles du classicisme, etc., il découvre que ça va de pair avec la liberté politique. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, au moment d'Hernani, toutes les libertés vont ensemble, et la révolution libérale de 1830 va le trouver parfaitement en accord avec l'événement.
Alors ça ne le rend pas pour autant républicain, il salue la révolution de 1830 comme une aurore, hein, il le dit, mais Charles X qui est renversé et remplacé par Louis-Philippe, c'est une monarchie donc constitutionnelle, donc qui est moins dure que la précédente. D'ailleurs Louis-Philippe va le faire pair de France, donc il n'est toujours pas républicain. Cela dit, là encore, il prend à rebrousse-poil les conservateurs, par exemple en prenant la défense de la Pologne, qui est écrasée en 1846 par les Russes, Michel Vinocq.
Alors, il a un mot à propos de la République, n'est-ce pas ? Il dit qu'au fond, c'est le régime idéal, mais il ne faut pas cueillir au printemps les fruits qui ne seront mûrs qu'à l'été. Donc, dans son idée, c'est quand même que la République, c'est un régime idéal. Mais c'est pas mûr. Bon, alors, que devient-il ? Il devient effectivement un notable. Le régime de Louis-Philippe, c'est le régime des notables, dans une monarchie qui n'est pas seulement constitutionnelle, mais qui est censitaire, c'est-à-dire où le droit de vote, n'est-ce pas, n'est donné qu'à à peu près 200 000 citoyens. Et lui fait partie, évidemment, de ces notables. Et il a tous les honneurs. Alors, il produit énormément, beaucoup de chefs-d'œuvre, il est récompensé de mille façons, et en particulier... Il est élu à l'Académie française en 1841 et il devient pair de France, donc membre de la Grande Assemblée en 1845. Et malgré cela, il y a chez lui effectivement comme l'ébauche, les jalons de ce qu'il va devenir par la suite, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas conformiste. Et son non-conformisme, il y a deux registres dans lesquels il montre son non-conformisme. C'est tout d'abord le problème social. Vous savez, ce qu'on appelait la question sociale a véritablement été posée dans les années 1840. Et lui commence à découvrir cela. Et il projette un livre qui s'appelle Les Misères et qui deviendront Les Misérables. Et l'autre drapeau qu'il va saisir, c'est la question des nationalités. C'est-à-dire que pour lui, l'Europe des nations doit être construite et que chaque nation doit être aidée par la nation mère, la nation marraine des nations qui est la France.
Alors justement, la Pologne est écrasée, la révolte en Pologne est écrasée par les Russes. Il demande à l'Assemblée nationale, il demande que la France intervienne. Il a cette phrase extraordinaire, quand la France parle, le monde écoute. Quand la France conseille, il se fait un travail mystérieux dans les esprits et les idées de droit et de liberté, d'humanité et de raison germent chez tous les peuples. Ça, c'est vraiment le tribun aussi qu'on découvre dans votre livre. Oui. C'était un extraordinaire tribun, Victor Hugo.
Étonnant, parce que nous avons de lui alors des recueils de discours parlementaires ou de discours qu'il a tenus dans des assemblées. Et à chaque fois, on est éberlué par la verve, le sens de l'antithèse. Et puis alors un souffle qui nous paraît peut-être un peu désuet aujourd'hui, parce que nous sommes une grande époque sceptique. Alors que le 19e siècle a quelque chose de très naïf, n'est-ce pas ? C'est un siècle qui croit. Qui croit dans l'avenir, qui croit dans le progrès, toutes choses qui, encore une fois, de nos jours, n'est-ce pas, sont bien douteuses. Alors, lui, il incarne cela. Il incarne demain, n'est-ce pas ? Il dit « demain, je suis pour demain ».
Et alors demain, justement, deux ans après l'affaire polonaise, éclate la révolution de 1848, et là, c'est vraiment le grand tournant. Vive la République universelle, dit-il le 2 mars 1848, en inaugurant place des Vosges, un arbre de la liberté. Là, il passe vraiment du côté républicain, Michel
Pinocque. Oui, mais ça n'a pas été immédiat. Quand les journées de février ont lieu, il se dit, bon, il n'y a qu'une solution, c'est la régence. Et il va défendre dans un premier temps la duchesse d'Orléans, n'est-ce pas, parce que le dauphin est trop jeune, pour qu'il y ait en France une régence. Et il est même amené à le dire dans la rue, devant la foule, où là, il se fait matraquer par les gens qui le huent, etc. Et il dit, mais moi, je suis pair de France, je suis fidèle à mon roi et je défends la régence. Mais très rapidement, il doit se rendre à la raison. La République est installée et dès le lendemain ou le surlendemain, il va voir Lamartine, qui est le grand homme de février 1848. Lamartine lui offre du reste un poste ministériel, il n'en veut pas, mais il se dit, c'est la République. Alors c'est ce qu'on appelle, à l'époque,
de l'opportunisme, non ?
Un républicain du lendemain. Oui. C'est-à-dire ceux qui ont adhéré à la République parce qu'ils se sont dit oui, il n'y a pas d'autre solution.
Mais alors, à une République modérée, il est député. Il critique, par exemple, l'ouverture des ateliers nationaux qui étaient chargés d'employer les chômeurs de Paris. Il a cette phrase terrible, la monarchie avait ses oisifs, la République aura ses fainéants. Il critique donc ce que certains appelaient même les râteliers nationaux. Il approuve leur fermeture en juin et une fermeture qui provoque alors un soulèvement et une répression terrible qu'on a un peu oublié, il y en a eu beaucoup au 19e siècle, mais en juin 1848, ces insurgés des ateliers nationaux sont littéralement massacrés. Et là, il est pris de compassion. Il a voté la suppression des ateliers nationaux, il l'a approuvé, et en même temps, il est très triste, il le fera plus tard pour la Commune, de ce qui se passe, de la façon dont on a réprimé justement cette agitation.
Exactement. Alors, il commence sa carrière de député sous la Seconde République, comme un homme de droite, effectivement. Et avec la majorité, il est hostile à ces ateliers nationaux qui ne produisent rien du tout. Et c'est vrai que le soulèvement de juin, les émeutes de juin, qui font des centaines de morts, n'est-ce pas, c'est un massacre, va accélérer son évolution car il va se rendre compte que cette fameuse question sociale, c'est devenu la question capitale.
Ça va même d'ailleurs lui inspirer beaucoup plus tard, en 1862, une des plus belles pages des Misérables, la mort de Gavroche, sur les barricades d'une autre révolte, celle qu'avait provoquée en 1831 les funérailles du général républicain Lamarque.
Je suis né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire, et non à Palaiseau, c'est la faute à Rousseau.
Gavroche.
Et maintenant, aux barricades!
Aux barricades!
En avant! Balayez-moi cette canard!
À la volonté!
Vive la France! Vive l'avenir!
Changer le ministère, c'est la faute à Voltaire. Les cognes et les cajots, c'est la faute à Rousseau.
Tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à...
Il est mort.
Donnez-le moi.
Mettons-le à côté des autres.
Où ça?
Par ici.
La bourgeoisie est un veau qui s'enrhume du cerveau. Au moindre vent frais qui souffle, le bourgeois c'est la pantoufle qu'un roi met sous ses talons pour marcher à reculons. Je fais la chansonnette, faites le rigodon. Ramponneau, ramponnette, ramponnette, don. Je fais la chansonnette, faites le rigodon. Il enseigne à ses marmots comment on rit de nos mots. Pour lui, le peuple et la France, la liberté, l'espérance, l'homme et Dieu sont au-dessous d'une pièce de 100 sous. Je fais la chansonnette, faites le rigodon, ramponneau, ramponnette, ramponnette, don.
Et c'est une chanson de Gavroche, Jean-Louis Caillat, sur un texte de Victor Hugo. C'était écrit au moment où il écrivait aussi Les Misérables en exil à Guernesey, 13 ans après une révolution de 1848, pendant laquelle, nous l'avons vu, il s'était engagé, sans ambiguïté, progressivement, dans le camp républicain, mais sans devenir pour autant socialiste. Là, dans le texte qu'on vient d'entendre de Victor Hugo, chanté par Jean-Louis Caillat, il y avait peut-être un peu de socialisme, mais là, il n'y en avait pas du tout. En 49, cela dit, il s'engage encore dans beaucoup de choses. Par exemple, il défend la République romaine proclamée par Mazzini en 1849.
Michel Oui, Dinoc. Il va par une série de manifestations, de discours, de votes, décrocher progressivement de la droite dont il fait partie, n'est-ce pas, en 48. Et n'oublions pas qu'en 48, il a été partisan de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc il ne représente pas du tout la gauche. Et pourtant, dans l'Assemblée législative qui suit et où il est élu, il va prendre une série de positions qui vont le faire détester de plus en plus par le Parti conservateur. Alors, vous l'avez dit, il y a toujours cette question des nationalités. La République romaine, c'est quoi? C'est la nationalité italienne qui doit créer l'Italie. Mais au détriment de qui? Forcément, des États du pape. Et c'est pourquoi il y a un débat. La France catholique veut défendre le pape au moment où lui intervient en défendant le nationalisme italien, la nationalité italienne. Il se bat pour défendre le suffrage universel qui a été instauré en 48, mais qui a été revu et corrigé par la droite conservatrice qui ôte de l'électorat 3 millions d'électeurs qui sont pour la plupart des ouvriers. Il se bat pour les libertés de la presse. Il se bat sans arrêt sur des positions par conséquent.
Il se bat contre la loi Fallou.
Alors la loi Fallou, c'est intéressant.
À l'école, l'enseignement religieux, lui il est contre.
Voilà.
Il est laïque.
C'est-à-dire, attention, il n'est pas contre l'enseignement religieux, mais il veut que cet enseignement religieux, car il est pour les libertés, donc pour la liberté de l'enseignement, mais il veut que cet enseignement religieux soit contrôlé, surveillé par l'État. Et il faut une école laïque pour tous. Et ça a été, avant Jules Ferry, un des partisans les plus fervents, les plus éloquents de l'école laïque et de l'école obligatoire et laïque.
Alors, et puis surtout, alors, en 1851, il va se dresser contre Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, qui veut qu'on transforme la Constitution de 1848 pour qu'il puisse se représenter à nouveau à la présidence de la République. Victor Hugo Hugo sent bien qu'il s'agit là d'une volonté de rétablir progressivement l'Empire. Et alors, il a cette phrase terrible, très connue, le 17 juillet 1851. Il dit quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Alors ça, c'est une phrase qui va évidemment lui coûter cher, oui. Michel Vinocq.
Ça va faire
mouche. C'est la rupture avec Napoléon III.
Oui,
enfin, le futur Napoléon III.
C'était déjà fait. Mais c'est vrai qu'il a été de la minorité courageuse des députés qui, le 2 décembre 1851, se sont révoltés contre le coup d'État qui avait été perpétré dans la nuit. Et ils ont tenté, ces quelques dizaines de députés, d'organiser une résistance. Ils ont fait des proclamations, etc. Mais évidemment, ils n'avaient pas la force pour eux. Il a été, lui, Victor Hugo, comme les autres, recherché par les sbires de Louis-Napoléon Bonaparte. Il a dû s'enfuir en Belgique d'abord et ensuite en Angleterre, dans les îles anglo-normandes.
Et c'était le début d'un exil de 19 ans, donc d'abord en Belgique, vous le disiez, Michel Vinocq, puis à Jersey jusqu'en 1855, et enfin à Guernesey, où il refuse l'amnistie que décrète Napoléon III en 1859.
Aujourd'hui, 30 ans plus tard, comme Hernani, à mon tour, je suis un proscrit volontaire. Et ma bataille continue. Elle ne sera jamais terminée. Parfois, malgré moi, des passages de la pièce me reviennent. Le monologue de Don Carlos au quatrième acte. Ah, le peuple, océan, onde sans cesse émue. Et la tirade d'Hernani au troisième acte, comment est-ce ? Ah oui, tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres, un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Détrompe-toi, je suis une force qui va. Une force qui va.
C'était Bernard Fresson dans le rôle de Victor Hugo en exil dans le film de Jean-Daniel Verrègue, La bataille d'Hernani. L'exil qui a été l'acte politique finalement le plus important de l'engagement de Victor Hugo, sa conséquence aussi, Michel Vinocq.
Certainement. Il a pris dans ce geste, et un geste qui dure 19 ans, une stature exceptionnel, extraordinaire. Et il faut savoir que ses écrits passaient quand même les frontières, soit de manière détournée, soit directement. Ses livres étaient connus. Il est la grande voix de l'opposition à Napoléon III. Et ses œuvres, dans l'immédiat, il écrit Napoléon le Petit pour dénoncer le coup d'État. Il écrit Les Châtiments. Et il faut savoir que les châtiments qui sont interdits en France passent la frontière comme ça. Et subrepticement, et que tous les collégiens, les écoliers, une bonne partie du public français apprennent par cœur, n'est-ce pas, les vers, les châtiments, et qu'ils représentent une opposition active, par conséquent, par la poésie, ce qui est quand même magnifique.
Et puis alors, par le livre politique le plus important, en définitive, ce sont évidemment Les Misérables. D'ailleurs, personne ne s'y trompe. Vous citez toutes les critiques dont font l'objet Les Misérables. Cuvillier-Fleury, qui était l'ancien précepteur du duc d'Aumale, qui dit ce livre, et c'est l'épopée de la canaille. Barbet de Révilly, qui dit le livre le plus dangereux de ce temps. Il y a même Lamartine qui le critique en disant la plus meurtrière et la plus terrible des passions à donner aux hommes, c'est la passion de l'impossible, parlant des Misérables. Tout le monde était bien conscient du contenu des Misérables, ça signifie.
Alors, Les Misérables, c'est un livre, c'est vrai, c'est un moment extraordinaire, puisque c'est un best-seller. Hein. C'était vraiment un des livres qui sera lu par une grande partie des Français, qui sera lu et traduit dans je ne sais combien de langues. C'est le monument. Alors, on lui a reproché d'abord, du point de vue formel, une écriture justement un peu trop emphatique, des digressions multiples, etc. Mais c'est un ouvrage qui hante les esprits et qui va devenir une référence pour tous les républicains, pour tous les hommes de la liberté.
Et expliquer son accueil triomphal quand il revient en 1870, juste après la chute du Second Empire, il est accueilli triomphalement. Nous sommes en pleine guerre et puis en 71, il est élu député, en 71, il se déclenche la Commune et là encore, voilà Victor Hugo qui ne veut pas prendre parti pour la Commune.
Oui, il ne prend parti ni pour Versailles, ni pour la Commune, parce qu'il estime que les torts sont vraiment des deux côtés, qu'il faut éviter à tout prix la guerre civile, et il fait de son mieux pour l'éviter, cette guerre civile. Il ne le peut pas, et il va condamner aussi bien M. Thiers et les Versaillais que les communards qui ont été excessifs, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est que dès que la Commune a été écrasée, Victor Hugo n'a eu qu'un geste, c'est la compassion, l'accueil, la défense de ceux qui fuyaient Paris pour trouver asile politique, notamment en Belgique, où il a une maison. Et il va être chassé de Belgique parce qu'il aura défendu le droit d'asile aux communards qui s'enfuient.
Il va même prendre la défense de Louise Michel. Bon, et puis alors, il reste encore, il lui reste une dizaine d'années à vivre, un peu plus. Il continue de se battre pour les États-Unis d'Europe, contre les pogroms antisémites en Russie. Être antisémite à l'époque, c'était pas du tout évident dans la France, à la patte. Peu de temps avant l'affaire Dreyfus, c'est vraiment un homme qui s'est battu jusqu'au bout, Michel Binocq.
Jusqu'au bout, et je dirais pour un nombre de causes incroyables. Depuis la révocation de la peine de mort, jusqu'aux libertés de la presse, jusqu'à la République, en passant par le droit des femmes, l'école, vous savez, tous les grands thèmes qui aujourd'hui sont, comme vous le disiez au début de cette émission, qui vont de soi, mais qui n'allaient pas de soi au XIXe siècle. Il en a été le prophète. Il en a été le défenseur poétique, héroïque. Et quand il meurt au début de cette Troisième République, qui s'accorde si bien avec lui, avec ses idéaux. Car il ne faut pas oublier que la République, les lois fondatrices de la République sont votées entre 1880 et 1884-85, c'est-à-dire dans les années qui précèdent sa mort. Et c'est pourquoi ces funérailles, c'est l'apothéose à la fois de Victor Hugo et de la République.
Merci Michel Binocq. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Victor Hugo dans l'arène politique. Un beau livre, un livre formidable, qui est vraiment enthousiasmant, qui a été publié chez Bayard. Vous êtes également l'auteur de La France et les Juifs de 1789 à nos jours, qui vient de paraître au Seuil dans la collection Point Histoire. À lire également 1000 ans de littérature française de Patrick Val, de Lasowski et autres auteurs qui viennent de paraître chez Nathan. Vous avez pu entendre des extraits de La bataille d'Hernani de Jean-Daniel Verreg chez GMT Productions et Des Misérables de Jean-Claude Le Chanois, disponible en DVD chez René Château Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Claire Tesser, Camille Poux, Jalaguier et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comilac.